Examen de 12e. Devoir de compréhension orale. Année scolaire 2010-2011. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez 2 minutes à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Écoutez l'enregistrement et complétez le ticket de caisse avec les informations nécessaires. Première écoute. Au marché de la butte.
C'est à vous, ma petite dame, qu'est-ce que je vous sers?
Je voudrais un beau melon, s'il vous plaît.
Ah, ils sont bons, mes melons. Vous en avez pris un hier, je vous reconnais.
Oui, c'est vrai, ils sont excellents.
Et avec ça?
Mettez-moi 1 kilo de courgettes.
Voilà, j'en ai 1 kilo 100, ça va?
Ça va.
Ensuite,
donnez-moi 2 paquets de café, 1 boîte de petits pois et du sel.
Alors, le café, les petits pois, le sel, autre chose?
Oui, je vais prendre 3 tranches de jambon.
Très bien. Alors, regardez, elles sont très fines. J'en mets 4?
Oui, mettez-en 5.
D'accord. C'est tout?
Oui, c'est tout.
Alors, 1 melon... 1,60€. Les courgettes, 1,80€. Le café, j'en ai mis 2 paquets, donc 3,70€. Les petits pois, il y en a 1 boîte, ça fait 1,90€. Le sel, 55 centimes. Et le jambon, 5,30€. Vous en avez 350 grammes. Ça vous fait 14,85€.
Vous avez 2 minutes avant la 2e écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute. Au marché de la butte.
C'est à vous, ma petite dame, qu'est-ce que je vous sers ?
Je voudrais un beau melon, s'il vous plaît.
Ah, ils sont bons, mes melons. Vous en avez pris un hier, je vous reconnais.
Oui, c'est vrai, ils sont excellents.
Et avec ça ?
Mettez-moi 1 kilo de courgettes.
Voilà. J'en ai 1,1 kg, ça va ?
Ça va.
Ensuite ?
Donnez-moi 2 paquets de café, 1 boîte de petits pois et du sel.
Alors, le café, les petits pois, le sel, autre chose ?
Oui, je vais prendre 3 tranches de jambon.
Très bien. Alors, regardez, elles sont très fines. J'en mets 4 ?
Oui, mettez-en 5.
D'accord. C'est tout ?
Oui, c'est tout.
Alors, un melon, 1,60 €. Les courgettes, 1,80 €. Le café, j'en ai mis 2 paquets, donc 3,70 €. Les petits pois, il y en a 1 boîte, ça fait 1,90 €. Le sel, 55 centimes. Et le jambon, 5,30 €. Vous en avez 350 grammes. Ça vous fait 14,85 €.
Vous avez quelques minutes à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez 2 minutes à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Écoutez l'enregistrement, puis répondez aux questions. Première écoute, la ville.
Vous avez bien voulu accepter de venir nous parler de l'urbanisme en France. Mais d'abord, une question. Est-il exact que la répartition des populations a changé depuis la guerre ?
Oui, oui, c'est exact. La répartition a changé et même beaucoup changé. Voyez, il y a 40 ans, la moitié des Français vivaient à la campagne. Aujourd'hui, ils ne sont même plus 20%.
Et les causes ? On les connaît ?
Il y en a deux essentielles. L'exode rural d'abord, un très grand nombre de paysans sont partis habiter et travailler en ville. Et puis la crise économique qui a frappé certaines régions. Les habitants ont cherché du travail dans les grandes villes. Et savez-vous qu'un sixième de la population française habite la région parisienne ?
Et dans l'autre sens, il n'y a pas de mouvement dans l'autre sens ? Des gens qui préféreraient vivre à la campagne ?
Mais oui, il y a un mouvement en sens inverse. Et là aussi, il y a deux raisons essentielles. D'abord, les retraités qui quittent la ville, mais il y a aussi le prix des loyers. En ville, c'est très cher. Et beaucoup de citadins préfèrent habiter à la campagne et faire la route tous les jours pour travailler en ville.
Mais vous dites que les loyers sont chers. Pourtant, on voit ces fameuses tours de béton. Ça ne doit pas être cher, là.
Oui, ces tours dans la région parisienne surtout. C'est une catastrophe. On a pensé d'abord à loger le plus de monde possible. Résultat, pas d'arbres, pas d'équipement collectif, pas de commerce, pas de transport en commun. La catastrophe, oui.
Et maintenant ?
Eh bien, on a cherché des solutions. D'abord, ce qu'on appelle les capitales régionales, ce qui donnera un peu d'équilibre par rapport à Paris. Ensuite, les villes nouvelles. Elles sont construites à quelques dizaines de kilomètres des grandes villes et sont beaucoup mieux aménagées. Ces villes nouvelles ne sont pas seulement des cités dortoirs, mais des lieux où il fait bon vivre. Enfin, le projet qu'on appelle Paris Futur, qui veut relier entre elles toutes les banlieues de Paris, alors qu'autrefois, il fallait passer par le centre. Les banlieues vont communiquer, enfin. Enfin, c'est un rêve pour le moment.
Vous avez 2 minutes avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute, la ville.
Vous avez bien voulu accepter de venir nous parler de l'urbanisme en France. Mais d'abord, une question. Est-il exact que la répartition des populations a changé depuis la guerre ?
Oui, oui, c'est exact. La répartition a changé et même beaucoup changé. Voyez, il y a 40 ans, la moitié des Français vivaient à la campagne. Aujourd'hui, ils ne sont même plus 20%.
Et les causes ? On les connaît ?
Il y en a deux essentielles. L'exode rural d'abord, un très grand nombre de paysans sont partis habiter et travailler en ville. Et puis la crise économique qui a frappé certaines régions. Les habitants ont cherché du travail dans les grandes villes. Et savez-vous qu'un sixième de la population française habite la région parisienne ?
Et dans l'autre sens, Il n'y a pas de mouvement dans l'autre sens? Des gens qui préféreraient vivre à la campagne?
Mais oui, il y a mouvement en sens inverse. Et là aussi, il y a deux raisons essentielles. D'abord, les retraités qui quittent la ville, mais il y a aussi le prix des loyers. En ville, c'est très cher. Et beaucoup de citadins préfèrent habiter à la campagne et faire la route tous les jours pour travailler en ville.
Mais vous dites que les loyers sont chers. Pourtant, on voit ces fameuses tours de béton. Ça ne doit pas être cher, là.
Oui, ces tours dans la région parisienne, surtout. C'est une catastrophe. On a pensé d'abord à loger le plus de monde possible. Résultat, pas d'arbres, pas d'équipement collectif, pas de commerce, pas de transport en commun. La catastrophe, oui.
Et maintenant ?
Eh bien, on a cherché des solutions. D'abord, ce qu'on appelle les capitales régionales, ce qui donnera un peu d'équilibre par rapport à Paris. Ensuite, les villes nouvelles. Elles sont construites à quelques dizaines de kilomètres des grandes villes et sont beaucoup mieux aménagées. Ces villes nouvelles ne sont pas seulement des cités dortoirs, mais des lieux où il fait bon vivre. Enfin, le projet qu'on appelle Paris Futur, qui veut relier entre elles toutes les banlieues de Paris, alors qu'autrefois, il fallait passer par le centre. Les banlieues vont communiquer, enfin. Enfin, c'est un rêve pour le moment.
Vous avez quelques minutes à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez 2 minutes à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Écoutez l'enregistrement, puis répondez aux questions. Première écoute. La société française.
On dit que la France change. Rendez-vous compte, en 30 ans, tellement plus de voitures, de téléphones, de douches, tellement de télévisions dans les salons ou même dans les chambres, mais aussi beaucoup plus d'étudiants dans les facultés. Et puis les campagnes se sont vidées et les villes se sont remplies. Sur ce portrait de la France et des Français, je voudrais demander à Michel Glaude de l'INSEE quel est le changement le plus marquant que la France ait enregistré.
Celui qui m'apparaît le plus notable, c'est peut-être l'émergence d'un nouveau modèle familial. On sait bien que les divorces sont de plus en plus fréquents, que les mariages se font plus rares. Même si les tendances actuelles continuent, on pourrait dire que un mariage sur trois risque de se terminer par un divorce. Un enfant sur trois naît hors mariage. Ça ne veut pas dire que, comme avant, il n'est pas reconnu par ses parents. Parce qu'au bout d'un an, pratiquement l'immense majorité des enfants sont reconnus par leurs deux parents. Mais ces changements, ces familles recomposées, comme on les appelle, font que, d'une certaine manière, parmi les jeunes enfants de moins de 19 ans, près de 2 millions d'enfants se trouvent séparés d'au moins l'un de leurs parents.
Et la condition de la femme, quelle est-elle? J'aimerais poser cette question au sociologue Alain Chenu. La femme est une des sources de la cellule familiale. C'est peut-être le fait qu'elle travaille aujourd'hui, Alain Chenu?
Oui, effectivement. Depuis une trentaine d'années, une des transformations, un des aspects de ces transformations, ce sont surtout les femmes diplômées qui travaillent, alors qu'autrefois, au XIXe siècle, le travail féminin était une malédiction qui touchait les femmes les plus dépourvues de ressources. Aujourd'hui, le travail féminin continue à augmenter en dépit de la montée du chômage. Une des solutions à la montée du chômage, ce serait de faire retourner les femmes à leur foyer. Mais manifestement, ça ne se passe pas comme ça. Les femmes travaillent et sont de plus en plus nombreuses à travailler. Y compris les femmes qui ont deux enfants, certaines qui ont trois enfants. De recensement en recensement, on observe que les femmes qui travaillent sont de plus en plus nombreuses. Et de fait, ça, c'est un axe de changement majeur, je crois. Elles tiennent de plus en plus à leur travail.
Est-ce que l'égalité du travail...
L'inégalité existe de toute façon. Cette inégalité persiste. Elle persiste fortement, notamment dans les emplois peu qualifiés. Enfin, elle persiste peut-être le plus aux deux extrêmes, dans les emplois de pouvoir, même s'il y a eu une femme Premier ministre il n'y a pas très longtemps, les emplois de pouvoir dans l'ensemble continuent d'être largement réservés aux hommes. Et d'autre part, dans les emplois très peu qualifiés. De fait, il n'y a pas égalité. En revanche, les filles qui sortent de Polytechnique, je ne pense pas qu'elles subissent une discrimination salariale.
Vous avez 2 minutes avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute. La société française.
On dit que la France change, rendez-vous compte, en 30 ans, tellement plus de voitures, de téléphones, de douches, tellement de télévisions dans les salons ou même dans les chambres, mais aussi beaucoup plus d'étudiants dans les facultés, et puis les campagnes se sont vidées et les villes se sont remplies. Sur ce portrait de la France et des Français, je voudrais demander à Michel Glaude de l'INSEE quel est le changement le plus marquant que la France ait enregistré.
Celui qui m'apparaît le plus notable, c'est peut-être l'émergence d'un nouveau modèle familial. On sait bien que les divorces sont de plus en plus fréquents, que les mariages se font plus rares. Même si les tendances actuelles continuent, on pourrait dire que un mariage sur trois risque de se terminer par un divorce. Un enfant sur trois naît hors mariage. Ça ne veut pas dire que, comme avant, il n'est pas reconnu par ses parents, parce qu'au bout d'un an, pratiquement l'immense majorité des enfants sont reconnus par leurs deux parents. Mais ces changements, ces familles recomposées, comme on les appelle, font que, d'une certaine manière, parmi les jeunes enfants de moins de 19 ans, près de 2 millions d'enfants se trouvent séparés d'au moins l'un de leurs parents.
Et la condition de la femme, quelle est-elle? J'aimerais poser cette question au sociologue Alain Chenu. La femme est une des sources de la cellule familiale. C'est peut-être le fait qu'elle travaille aujourd'hui, Alain Chenu?
Oui, effectivement. Depuis une trentaine d'années, une des transformations, un des aspects de ces transformations, ce sont surtout les femmes diplômées qui travaillent, alors qu'autrefois, au XIXe siècle, le travail féminin était une malédiction qui touchait les femmes les plus dépourvues de ressources. Aujourd'hui, le travail féminin continue à augmenter en dépit de la montée du chômage. Une des solutions à la montée du chômage, ce serait de faire retourner les femmes à leur foyer. Mais manifestement, ça ne se passe pas comme ça. Les femmes travaillent et sont de plus en plus nombreuses à travailler. Y compris les femmes qui ont deux enfants, certaines qui ont trois enfants. De recensement en recensement, on observe que les femmes qui travaillent sont de plus en plus nombreuses. Et de fait, ça, c'est un axe de changement majeur, je crois. Elles tiennent de plus en plus à leur travail.
Est-ce que l'égalité du travail...
L'inégalité existe de toute façon. Cette inégalité persiste. Elle persiste fortement, notamment dans les emplois peu qualifiés. Enfin, elle persiste peut-être le plus aux deux extrêmes, dans les emplois de pouvoir, même s'il y a eu une femme Premier ministre il n'y a pas très longtemps, les emplois de pouvoir dans l'ensemble continuent d'être largement réservés aux hommes. Et d'autre part, dans les emplois très peu qualifiés. De fait, il n'y a pas égalité. En revanche, les filles qui sortent de Polytechnique, je ne pense pas qu'elles subissent une discrimination salariale.
Vous avez quelques minutes à votre disposition. Finissez le devoir. Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.